Mondial Sport. Cédric De Oliveira.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes dans Mondial Sport avec tout d'abord au programme un tour en Espagne. C'était jour de Classico aujourd'hui, remporté par le Real Madrid 3-1 face au FC Barcelone, mais la sensation en dessous, Fatih, a encore brillé pour les Catalans. Le foot aussi en Afrique, on connaît au moins un finaliste de la Ligue des Champions et c'est un habitué à l'Arly. On en parlera avec Frédéric Nkuna. Nous entendrons aussi Alain Traoré, le Burkinabé de la renaissance de Berkane, à la veille d'un match très important pour le club marocain, la finale de la Coupe de la Confédération face aux Égyptiens de Pyramids. Enfin, un peu de rugby pour terminer l'émission. Comment se sont passées les retrouvailles du 15 de France avec le terrain? Les Bleus affrontaient le Pays de Galles ce soir sous les yeux d'Éric Chorin. Mondial Sport, c'est parti.
El rebote, qué definición maravillosa. Tres dedos, señores. Espera el momento justo. Taqui adentro. Oh, lo liquida Real Madrid.
Se va a enthousiaste les commentateurs espagnols sur le troisième but du Real Madrid, vainqueur 3-1 lors du Classico face au Barça. Un but signé Luka Modric qui est donc venu mettre fin aux espoirs catalans battus chez eux au Camp Nou. Ça va notamment donner de l'air à l'entraîneur du Real, Zinedine Zidane, qui a été critiqué ces derniers jours. Ce soir, le Real est provisoirement leader de la Liga. Et côté Barça, ça ne va pas fort. Les Catalans sont dans le ventre mou du classement, mais ils peuvent au moins se féliciter de la prestation convaincante d'Ansu Fati, qui a marqué lors de ce Classico. Le phénomène d'origine bissau-guinéenne qui est né à Bissau a encore battu un record cet après-midi. Il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire des matchs Real Madrid-Barcelone au 21e siècle, à une semaine de ses 18 ans. C'est l'attraction du club catalan cette saison. Le reportage de notre correspondant à Barcelone, Antonin Vabre.
Décisif, voici l'adjectif qui définit le mieux le début de saison d'Ansu Fati. 5 buts en 7 matchs, la plupart à des moments clés. Si l'entame de saison des Barcelonais est mauvaise, avec en toile de fond une crise avec la direction, au milieu de cette grisaille, Fati est le rayon de soleil des supporters Blaugrana.
C'est un bijou pour le futur du Barça, même s'il nous montre déjà toutes ses qualités. Celui qui réussira à mettre la pression aux adversaires. Il faut lui donner du temps de jeu et du temps pour grandir afin qu'il s'habitue aux grands stades et aux grands joueurs.
C'est un jeune qui promet beaucoup, vu son niveau actuel et tout ce qu'il apporte à l'équipe. On peut avoir des attentes, mais ne lui en demandons pas trop. C'est un gamin, il n'a que 17 ans et il va beaucoup nous apporter.
Fati ne réjouit pas que les Catalans. Né en Guinée-Bissau, l'ailier d'1m78 a choisi de jouer pour l'Espagne, un pays où il est arrivé à l'âge de 6 ans. Il a vite montré son attachement à la Roja, comme l'explique Marie Carmen Torres du quotidien sportif Marca.
C'est le deuxième plus jeune joueur à avoir débuté avec la sélection et le plus jeune à avoir marqué. Ce joueur n'est pas une promesse, c'est déjà une réalité. Son début de saison est incroyable, historique. Ansu Fati est un titulaire pour Koeman, ça ne fait aucun doute.
Son entraîneur Ronald Koeman est clairement sous le charme. La précocité de son attaquant le stupéfie.
Ansu est un grand talent. Peu de joueurs de son âge ont le niveau de jeu pour porter le maillot du Barça. Bien sûr, il a encore des choses à apprendre. Mais s'il a déjà joué en sélection, ça veut bien dire quelque chose. C'est un joueur pour l'avenir du Barça. Et c'est d'ailleurs impressionnant qu'il évolue déjà avec l'équipe première.
Para jugar en Barcelona, primer equipo.
Titulaire aujourd'hui contre le Real Madrid, Ansu Fati est devenu le meilleur buteur cet après-midi des Blaugrana dans un début de saison morose. Ne risque-t-il pas d'avoir trop de pression sur ses épaules dès cette saison?
Il a géré cette pression assez naturellement, bien qu'il signe des records avec le Barça. Même en Ligue des Champions, ça n'a jamais été un poids, il reste serein. S'il a un présent et sans doute un avenir radieux, c'est précisément pour cette faculté de gérer efficacement la pression.
Son club, le Barça, est clairement sous pression après cette défaite dans le Classico. Il faudra se reprendre dès mercredi en Ligue des Champions, un déplacement difficile. Lionel Messi et les siens iront à Turin affronter la Juventus. Antonin Vabre, Barcelone, RFI.
Et en tout cas, au classement en Liga, le Barça est donc 12e pour l'instant de ce championnat. Le Real a pris la tête du classement. C'était compliqué aussi pour un autre club qui joue la Ligue des Champions. Le FC Séville a été battu par Eibar 1-0. À noter également la victoire de l'Atlético de Madrid 2-0 face au Betis Séville avec un but de Luis Suarez. Voilà pour la 7e journée du championnat espagnol qui se poursuivra demain en Allemagne. Le Bayern Munich continue d'être toujours aussi impressionnant. 5-0 face à l'Eintracht Francfort avec un nouveau triplé de Robert Lewandowski. Les Bavarois qui ne sont malgré tout pas leaders de la Bundesliga, c'est Leipzig qui est en tête. Leipzig vainqueur du Hertha Berlin 2-1 avec un but du français Dayo Upamecano. Joli succès également du Borussia Dortmund 3-0 lors du duel face à Schalke 04 pour le derby de la Ruhr. Et puis en Angleterre, c'est toujours aussi compliqué pour Manchester City. Très irrégulier depuis le début de saison. Les hommes de Pep Guardiola ont fait match nul 1-1 à West Ham. City est seulement 12e. Victoire de Crystal Palace à Fulham 2-1 avec un but du prolifique ivoirien Wilfried Zaha. C'est déjà son 5e but cette saison. Et puis 0-0 entre Manchester United et Chelsea avec un très très bon Edouard Mendy dans les buts. C'est promis les fans de foot sénégalais. On y reviendra beaucoup plus longuement dans Mondial Sport demain avec notre correspondant Philippe Auclair. Allez, un dernier résultat. La victoire de Liverpool 2-1 face à Sheffield. Le foot en France, 8e journée de Ligue 1. 3 matchs disputés pour l'instant, 3 rencontres qui concernaient les 3 clubs engagés en Ligue des Champions cette semaine. Bonsoir Tom Rossi.
Bonsoir Cédric, bonsoir à tous.
Bonsoir, donc Rennes, Marseille, Paris étaient deux sorties hier et aujourd'hui et ce sont les plus décevants en Coupe d'Europe qui ont gagné.
A commencer par le PSG, battu de manière inquiétante par Manchester United 2-1 mardi. L'adversité n'était pas la même aujourd'hui. Cédric, Dijon, lanterne rouge et qui n'a toujours pas gagné cette saison. Succès facile, 4-0 malgré les absences côté Paris. Et donc le nouvel attaquant, Moïse Kean, en a profité. Premier but pour l'international italien d'origine ivoirienne qui a même récidivé, doublé pour lui. Donc, Kean a très vite compris son rôle dans cette équipe.
Marquer des buts. Ouais, moi, je suis prêt à jouer partout. Le coach, si il me met même à gauche, à droite, au milieu, moi, je donne mon mieux pour l'équipe.
Ouais, ça se passe bien. Le groupe est magnifique. Le staff est magnifique. Donc, on travaille dur pour... Allez, en avant.
Allez, pas bien français, Moïse Kean.
Moïse Kean qui a ensuite laissé sa place à Kylian Mbappé, auteur lui aussi d'un doublé ce soir. Paris tranquille, leader provisoire de la Ligue 1, n'a pas eu besoin de forcer à 4 jours de son déplacement à Istanbul pour y affronter Başakşehir.
Plutôt, Tom, Marseille s'est aussi un petit peu rassuré après sa défaite sur le terrain de l'Olympiakos en Grèce.
On va insister sur le un peu, Cédric, parce que dans le jeu, ce n'est pas très séduisant. Victoire 1-0 avec là aussi le premier but d'une recrue. Celle du le défenseur argentin prêté par Dortmund, Leonardo Balerdi. Il a profité d'une mauvaise appréciation du gardien Nardi. Une rencontre qui s'est déroulée dans des conditions difficiles. Beaucoup de vent, de la pluie, ce n'est évidemment pas propice à un match de très haut niveau. Peu d'occasions, peu d'intensité, mais un Mikael Cuisance, auteur d'une bonne prestation en numéro 10. Dimitri Payet suspendu n'était pas là, mais il faudra faire beaucoup plus pour espérer ne serait-ce qu'inquiéter un petit peu Manchester City mardi. L'OM n'a donc pas brillé, vous l'aurez compris, mais poursuit sa remontée au classement. Les Marseillais sont quatrième à égalité de points avec le troisième Rennes.
Rennes battu pour la première fois de la saison hier.
Les Rennais plutôt en ballant mardi en Ligue des Champions malgré leur match nul face aux Russes de Krasnodar. Ils l'ont été beaucoup moins contre Angers, défaite 2-1. C'est pourtant Rennes qui a ouvert le score par Adrien Ounou, mais les hommes de Julien Stéphan ont vite baissé de régime. Égalisation du Marocain Sofiane Boufal avant que Fulghini ne marque le but du 2-1 à l'heure du jeu, Rennes a poussé, mais manqué de tranchant, d'idées à l'image de Steven Zonzi et Eduardo Camavinga. Une prestation collective qui n'a pas plu au coach Julien Stéphan avant d'affronter le FC Séville mercredi.
Je suis déçu de notre match. Voilà, je suis déçu des deux visages qu'on a affichés. Une bonne entame de match jusqu'au but. Puis malheureusement, comme mardi dernier, on mène au score et on est rejoint beaucoup trop vite. Après, il y a eu beaucoup trop de manque pendant une heure. On s'est coupé en deux. Ils ont réussi à nous contrer là où ils excellent. Voilà, donc on a un certain nombre de choses à revoir sur le plan collectif. On sait que c'est difficile d'enchaîner les matchs tous les trois jours, mais on s'est qualifié en Coupe d'Europe. C'est aussi pour ça, c'est pour pouvoir jouer tous les trois jours. Donc on va pas se plaindre de ça. Il y avait des joueurs plus frais aujourd'hui. J'avais fait 5 changements. Voilà, tout ça, ça fait partie de l'apprentissage, de l'expérience, mais si on veut être dans le premier tiers du classement, on doit faire mieux que ça.
Rennes qui reste provisoirement hein, toujours dans le premier tiers du classement, troisième de la Ligue 1 avant Nice-Lille demain.
Eh bien merci beaucoup Tom Rossi, Nice-Lille qui sera l'un des six matchs prévus demain pour la suite de cette huitième journée. Lens-Nantes a été reporté conformément au protocole sanitaire en vigueur puisque 11 membres du staff et de l'équipe ont été déclarés positifs au Covid-19. Match donc reporté à une date ultérieure. Le Covid qui empêche pour l'instant Cristiano Ronaldo de rejouer au football. Le numéro 7 de la Juventus Turin a de nouveau été testé positif au coronavirus jeudi et sa participation au match de la Vieille Dame face au Hellas Vérone demain est forcément compromise. Et j'espère que cette réponse satisfera Nkunku et Aristote Kalenga qu'on salue. Il nous demandait sur la page Facebook de Mondial Sport où en était la star portugaise CR7 qui pourrait aussi manquer les retrouvailles avec Lionel Messi. Mercredi en Ligue des Champions, la Juve accueillera le FC Barcelone. Et puis autre internaute qui nous interpellait sur la page Facebook de Mondial Sport, Abdoulaziz Mandé, qui mentionne le Burkinabé de l'Ajax Amsterdam qui a inscrit un quintuplé. Eh bien, le joueur en question s'appelle Lassina Traoré, auteur effectivement de 5 buts rien que ça cet après-midi sur le terrain du club de Venlo. C'était un match de la 6e journée du championnat des Pays-Bas. L'Ajax a remporté cette rencontre 13-0. Un festival, c'est du jamais vu dans le championnat des Pays-Bas. Traoré qui a en plus délivré 3 passes décisives à 19 ans. Il confirme donc son statut de grand espoir du foot burkinabé. Lui qui est né à Bobo Dioulasso et qui est passé par le FC Raimo, on essaiera de vous en reparler dans Mondial Sport, en tout cas sur RFI. Lassina Traoré qu'on devrait revoir cette semaine en Ligue des Champions. L'Ajax affronte l'Atalanta Bergame mardi. Lassina Traoré dont on reparlera tout à l'heure avec Alain Traoré, un autre illustre burkinabé. 23h42 à Paris, une heure de moins au Caire, l'heure de s'intéresser à la Ligue des Champions africaine, l'édition 2020 qui a bien du mal à aller à son terme. Les demi-finales ont été reportées à de multiples reprises à cause de la crise sanitaire, mais Al Ahly est parvenu à se qualifier pour la finale. Après un succès 2-0 au match aller face au Wydad Casablanca, le club le plus titré du continent s'est à nouveau imposé 3-1, cette fois en Égypte. Pour l'instant, tout va bien pour les Kérotes et leur nouvel entraîneur Pitso Mosimane, arrivé au club au début du mois, comme nous le raconte Frédéric Nkena.
Le suspense n'a pas duré. À l'image du match aller où Al Ahly avait ouvert le score quelques minutes seulement après le coup d'envoi, les Diables Rouges entament encore une fois la partie de la meilleure des façons, en trouvant le chemin des filets dès la 5e minute par l'intermédiaire de Marwan Morsen. À la 26e minute, le Malien Aliou Dieng remonte le ballon à toute vitesse et sert en profondeur Hussein El Shahed, parti à la limite du hors-jeu. Après un numéro dans la surface, l'Égyptien ajuste le portier du Wydad, ce qui permet au Al Ahly de mener 2-0, 4-0 sur l'ensemble des deux matchs et de redonner de la confiance à l'ailier égyptien qui en avait besoin, lui qui a parfois du mal à assumer son statut de recrue la plus chère de l'histoire du club.
Pour moi, c'est la même joie lorsque je marque et qu'un de mes coéquipiers inscrit un but. Le plus important, c'est la victoire. Nous avons pu gagner au Maroc et gagner ici au Caire. C'est une grande joie, j'ai pu inscrire ce but. Cela me redonne de la confiance et cela motive également mes coéquipiers. J'espère que le trophée de la Ligue des Champions reviendra en Égypte cette année et que l'on pourra gagner ce trophée. Aussi, notre coach Pitso Mosimane est le responsable de cette victoire. Depuis son arrivée, on joue un football plaisant, il essaie d'amener ses idées et nous sommes tous derrière lui.
Après la pause, Al Ahly ajoute un troisième but sur corner suite à un coup de casque de son défenseur Yasser Ibrahim. À 3-0, Pitso Mosimane décide de faire tourner. Il remplace même son portier égyptien, Mohamed El Chenaoui.
Je vais bien, je n'ai aucune blessure. Comme notre victoire était assurée, le coach a voulu faire souffler quelques joueurs. Il m'a demandé si je pouvais laisser ma place à Ali Lofty. Je lui ai dit que je respectais ses décisions, je suis donc sorti. Il n'y a aucun problème, je suis disponible. Les deux autres gardiens également. Nous sommes une équipe soudée. Notre but ultime, c'est de soulever le trophée de la Ligue des Champions.
Zouher El Motaraji sauve l'honneur du Wydad en fin de partie. 3-1, c'est le score final. El Ahly se hisse en finale de la Ligue des Champions pour la 13e fois de son histoire et affrontera donc le 6 novembre au stade du Caire le vainqueur entre le Zamalek et le Raja Casablanca.
Alors Frédéric Nkana, suiveur assidu du foot égyptien à l'Arly, vous l'avez entendu, qui retrouvera peut-être en finale son grand rival, le Zamalek, opposé lui au Raja Casablanca dans un autre duel entre club égyptien et club marocain. Le Zamalek vainqueur 1-0 au match aller, mais 9 cas positifs au coronavirus ont été détectés cette semaine chez le Raja. Le club a été dans l'incapacité de quitter le Maroc. Les autorités ont placé le club à l'isolement jusqu'à mardi. Si tout va bien, cette demi-finale retour aura bien lieu au Caire, dimanche. Voilà. Pour la Ligue des Champions, désormais, on se tourne vers la finale de la Coupe de la Confédération qui, elle, devrait avoir lieu demain avec Martin Guez. Bonsoir.
Bonsoir Cédric. Moi, je me tourne vers vous, même si j'ai du mal à vous voir avec cette plaque de plexiglas qui sont dans les studios de RFI.
Il faut respecter les nouvelles règles de distanciation. En tout cas, la finale donc de la Coupe de la Confédération aura lieu, si tout va bien, demain avec d'un côté les nouveaux riches du FC Pyramids et de l'autre, on retrouve les Marocains de la Renaissance de Berkane, où joue le milieu offensif Alain Traoré, le Burkinabé avec qui vous avez pu vous entretenir.
Ah oui, le gaucher à la frappe surpuissante est toujours là, à 31 ans. Alain Traoré a une belle carrière derrière lui, il a fait les beaux jours d'Auxerre, de Lorient, et surtout de la sélection burkinabé. Hein. Vous vous souvenez sûrement, Cédric, de son coup franc supersonique en petite finale de la CAN 2017, c'était au Gabon. Eh bien, les talons galopent toujours depuis 2 ans au Maroc avec Berkane. L'an dernier, il disputait déjà la finale de la Coupe de la CAF, perdu au tir au but face aux Égyptiens du Zamalek. Eh bien, cette fois, il affronte encore une fois un autre club égyptien, le FC Pyramids. Un club créé toute pièce il y a une dizaine d'années et qui dispute sa première finale africaine. Mais cette fois-ci, Alain Traoré ne compte pas laisser passer sa chance.
On est bien, mais on a toujours en tête la finale l'année dernière, perdue au tir au but. Donc, on ne fait pas revivre la même chose. On se donne toutes les chances de remporter cette coupe.
Ah, vous l'avez dit l'an passé, vous aviez échoué de peu, donc c'était face à un poids lourd du continent, c'était les Égyptiens du Zamalek. Vous retrouvez cette année encore des Égyptiens, c'est le FC Pyramids. Mais a priori, vous êtes vous les plus expérimentés, Berkane. Est-ce que cette fois-ci, vous sentez que c'est peut-être la bonne?
C'est quoi, on s'est dit c'est la bonne parce qu'on a beaucoup d'expérience. On a échoué l'année dernière au tir au but. Et c'était notre première année en finale et cette année, les Pyramides, c'est la première fois aussi en finale, mais bon, ça reste une très bonne équipe qui a beaucoup de moyens avec beaucoup de bons joueurs, donc du coup, on se méfie.
Alors, par rapport au contexte, si on compare à l'an dernier, vous aviez joué la finale, c'était sur 2 rencontres, un match aller, un match retour, il y avait des stades pleins. Cette fois, il ne faudra pas se louper. Hein. Vous avez un seul match, pas du tout de spectateurs, donc pas le droit à l'erreur ni au soutien du public. Comment est-ce que vous le vivez, ça ? Est-ce que vous appréhendez un petit peu ?
Non, parce que ça fait 2 mois qu'on joue dans des stades vides, donc du coup, voilà, on est un peu plus préparé à ça. La particularité, ça va être sur un match de 50-50, il n'y a rien qui est défini avant. Il faut se donner à fond, c'est un match de coupe et surtout c'est une finale. Le plus important d'une finale, c'est gagner la coupe. Peu importe la manière.
Alors c'est une compétition un petit peu marathon hein, cette année. Berkane a débuté cette Coupe de la Confédération il y a plus d'un an hein, par les premiers tours.
Ouais.
Est-ce que c'est pas difficile de garder le rythme, de ne pas perdre le fil de cette compétition?
Ah, c'est très très compliqué. Ça fait 14 mois qu'on est ensemble, 14 mois qu'on voyage, on a parcouru toute l'Afrique, on allait même à Madagascar pour jouer un match. C'est très très long, mais voilà, il faut rester concentré, il faut faire beaucoup de sacrifices pour terminer dimanche en beauté.
Alors terminer dimanche en beauté pour vous, cette saison, Alain, vous n'êtes pas forcément un titulaire indiscutable, mais quand même vous jouez énormément, vous avez marqué d'ailleurs 2 buts dans cette compétition. Est-ce que vous êtes une sorte de super remplaçant? Comment est-ce que vous voyez votre rôle à vous dans cette équipe?
Au départ, je suis titulaire, après j'ai eu des blessures. Après le retour du confinement, je me suis blessé. Et vu qu'il n'y avait pas beaucoup de temps de temps pour faire une préparation, pour être au top de sa forme. Et aujourd'hui, c'est bien. Et voilà. Et l'équipe aussi tourne bien. Donc, du coup, c'est un peu plus compliqué de démarrer le match. Je suis prêt pour dimanche. Mais je pense que l'entraîneur, il va garder la même équipe. Hein.
Quand on regarde l'équipe, il y a un autre attaquant burkinabé qui joue un petit peu. C'est Djibril Ouattara. Lui aussi, il est de Bobo Dioulasso. Lui aussi, il a marqué 2 buts dans cette Coupe de la CAF cette saison. Mais lui, il a seulement 21 ans. Comment ça se passe pour vous avec lui? Est-ce que c'est un plus de l'avoir dans votre équipe? Est-ce que vous êtes un petit peu une figure tutélaire pour lui?
Un jeune joueur qui vient de ma ville, qui monte en puissance. C'est bien d'être ici, d'apprendre. Et puis voilà, je lui souhaite tout le meilleur. C'est un bon gars. il travaille bien. Voilà, je pense qu'il est encore jeune, il aura sa chance. Et puis, je lui souhaite tout le bien.
Et puis en face, tiens, vous retrouverez un autre attaquant burkinabé, un autre étalon, c'est Eric Traoré. lui aussi, c'est un sacré client. Hein.
Ouais, Eric, très très bon joueur. Il va vite avec les ballons et sans ballon. Voilà, c'est un joueur qu'on compte beaucoup avec la sélection. Et il a déjà fait ses preuves en équipe nationale. On le connaît très très bien. Donc voilà, on va bien le surveiller.
On a donc évoqué des jeunes attaquants burkinabés très prometteurs, des étalons, l'équipe nationale qui ont impressionné hein, lors des deux derniers amicaux, des victoires contre Madagascar, contre la RDC. Si on regarde, c'est pas seulement la renaissance de Berkane, hein, c'est aussi la renaissance du Burkina Faso. Est-ce que la sélection est de nouveau ambitieuse?
Bien sûr, on a toujours été ambitieux. On a toujours joué les premiers rôles en Coupe d'Afrique. On a loupé la dernière CAN. Ben voilà, ça ne nous a pas empêché de bien revenir. Là, on a une bonne génération qui arrive avec Bertrand, Edmond, Eric, et Lassine Traoré qui a l'Ajax. C'est des joueurs de très très bonne qualité. Donc du coup, on va s'appuyer dessus et puis essayer de bâtir une équipe nationale compétitive.
Et sans oublier Alain Traoré pour encadrer tout ça.
Hein. Il y en a deux ou trois encore pour épauler les jeunes. Il y a Charles Kabore, il y a Razak Traoré et moi, voilà, on est toujours là. Dans notre équipe aussi, on a un autre défenseur, Youssouf Dayo, qui est un très très bon défenseur en Afrique ici. Il fait partie de l'un des meilleurs défenseurs africains, donc du coup, c'est pas mal du tout notre équipe en sélection.
Voilà, c'est pas mal du tout, Renaissance de Berkane, FC Pyramides et tous les internationaux burkinabés. C'est une finale sur laquelle on reviendra demain en direct. Cédric, coup d'envoi, 20h, temps universel ce dimanche.
Eh bien, merci Martin Guez, on vous retrouvera donc demain dans Mondial Sport, même si vous serez de l'autre côté de la vitre de Plexiglas.
Mondial Sport sur RFI.
Place maintenant au foot féminin avec cette drôle de période que vit l'équipe de France féminine. Donc, contexte tendu autour des Bleus. Certaines joueuses ne semblent plus du tout s'entendre avec la sélectionneur Corinne Diacre, la technicienne qui est touchée par le Covid. En son absence, les Françaises sont pourtant rassemblées depuis le début de la semaine pour disputer les éliminatoires de l'Euro 2022. Hier, elles étaient à Orléans, à 150 km au sud de Paris, pour affronter la modeste équipe de Macédoine du Nord. Visiblement, les récentes tensions n'ont pas empêché les Bleus de réaliser une belle performance. Victoire 1-0 sous les yeux de notre envoyé spécial Frédéric Suto.
Ce refrain, on l'a entendu en boucle hier soir au stade de la Source d'Orléans. Le tube Freed from Desire, tube de la fin des années 90. Il accompagne chaque but des Bleus. La sono l'a craché à 11 reprises, mais on ne va pas se plaindre. On a vu les quelques centaines de spectateurs qui étaient autorisés au regard du protocole sanitaires ont vu des buts, beaucoup de buts, 11-0, vous l'avez dit, face à cette équipe de Macédoine du Nord qui, en septembre à Skopje, en avait déjà pris 7. Les Bleus ont déroulé, un sans faute hein, pour l'instant, dans ces éliminatoires de l'Euro 2022. 5 matchs, 5 victoires. L'assurance de terminer au moins deuxième du groupe et d'être barragiste, avec à venir la double confrontation avec l'Autriche, l'autre leader du groupe, hein, car les Françaises, bien entendu, c'est la première place du groupe qu'elles visent. Contrat rempli, en tout cas, nous dit Eugénie Le Sommer, qui a marqué 4 fois hier soir.
Je retiens la victoire, beaucoup de buts marqués, une équipe de France qui était enthousiaste. On a fait le match qu'il fallait, on se l'est rendu facile en marquant rapidement et on a marqué beaucoup de buts aussi sur des centres parce que on avait travaillé ça à l'entraînement, on voulait utiliser la largeur pour pouvoir les écarter un maximum et on a bien joué, on a fait un match abouti.
Eugénie Le Sommer qui en est à 86 buts en équipe de France, elle parle de cette volonté hein, qu'ont eu les Françaises d'écarter le jeu. La plupart des actions ont été initiées côté droit. Elisa De Almeida a délivré 2 centres décisifs et a marqué un but.
C'est vrai que j'adore monter offensivement, donc je me suis régalée pendant ce match.
Ce match s'est disputé sans la sélectionneuse Corinne Diacre, positive au Covid-19. C'est à distance depuis chez elle qu'elle a supervisé la semaine de préparation à Clairefontaine et la rencontre d'hier soir à Orléans. Elle n'en a pas moins gardé la main, ferme. Wendy Renard et Amel Majri, qui ont osé la critiquer publiquement après la non-sélection d'Amandine Henry, l'habituelle capitaine des Bleus, ne sont pas entrées en jeu hier, cantonnées au banc des remplaçantes. Difficile de ne pas y voir une sanction, même si Eric Blaic, l'adjoint de Corinne Diacre, qui a dirigé l'équipe, fait semblant de ne pas comprendre.
Je vous laisse l'analyser comme vous voulez. Le choix d'un soir,
C'est une réflexion qu'a eu la coach et le staff, et puis voilà, pas plus que ça.
Pas plus que ça, de quoi laisser cogiter un peu plus Wendy Renard et Amel Majri. Prochain rendez-vous en tout cas pour les Bleus, Cédric, ce sera mardi en Autriche.
Eh bien merci Frédéric Suto, ce sera un match forcément important. Les Françaises et les Autrichiennes sont toutes les deux en tête du groupe G des éliminatoires de 7 Euro 2022. Pour l'instant, les deux équipes ont fait un sans faute, 5 victoires en 5 rencontres. Allez, on parle désormais de rugby. Petit événement, c'était le retour du 15 de France ce soir après plus de 7 mois sans jouer. La faute, on le répète souvent, à la pandémie de coronavirus. Les Bleus, en tout cas, ont dominé le Pays de Galles 38 à 21 au Stade de France sous les yeux d'Éric Chorin. Bonsoir Éric.
Bonsoir Cédric.
Éric, match à huis clos, mais vous avez été l'un des rares chanceux à pouvoir assister à cette belle prestation du 15 de France. Ça s'est donc bien passé pour les joueurs de Fabien Galthié.
Ouais, ça s'est bien passé, même si c'était dans une ambiance effectivement étrange avec ce Stade de France totalement vide. Et surtout, cette entame ratée par les Bleus sur le coup d'envoi du match donné par les Gallois. Aldrit a fait un en avant, mêlé à 5 mètres dans la foulée et essai d'Alf Penny. Et tout de suite, donc 5 points, puis 7-0 avec Dan Bigard qui a transformé ce premier essai des Gallois. Et puis ensuite, les Bleus ont eu du mal à se relancer dans ces premières minutes de match, le premier quart d'heure, avec de nombreuses pénalités, notamment dans les regroupements où il manquait de soutien. Mais il y a eu quand même cet essai égalisateur après une percée de Ntamak et un relais de Dupont repris à seulement 5 mètres. Et sur la faute galloise qui s'en est suivie, Cyril Baye a aplati avec les avants. Les Bleus sont donc revenus et puis ont fini par prendre l'avantage avec un doublé de Dupont dans ce match. Antoine Dupont, le demi de mêlée, bien servi par des mouvements des trois quarts tricolores avec des ouvertures d'Ntamak, Virimi Wakatawa, décisif très souvent à la passe avec là aussi Dupont pour aplatir et un score de 21-13 à la pause, toujours à 100 faute d'Ntamak dans les coups de pied. Puis en deuxième mi-temps, Cédric, deux nouveaux essais tricolores, à nouveau des mouvements de trois quarts avec Antoine Dupont qui s'est raté sur une chandelle mais qui a récupéré, qui a percé, servi son capitaine Charles Olivon. À la fin du match, c'est Teddy Thomas qui a donné un petit coup de pied à suivre pour lui-même pour conclure ce match et cette belle victoire 38-21 pour les joueurs du 15 de France après une entame, on l'a dit, difficile.
Alors Eric, vous l'avez mentionné dans votre petit résumé, si le 15 de France a pu l'emporter, c'est notamment grâce à la belle performance du demi de mêlée Antoine Dupont.
Ouais, Antoine Dupont qui marque deux essais, effectivement très très inspiré au service de ses trois quarts, mais lui aussi à l'ouverture et à la création des actions, notamment pour servir ses trois quarts avec son compère quand même, hein, de la charnière, Romain Ntamak, il faut le préciser. Mais Antoine Dupont, il a cette capacité effectivement à créer l'exploit, à faire la différence dans la ligne de défense et à prendre les intervalles. C'est vraiment inégalable cette chance de l'avoir à la mêlée avec Romain Ntamak pour le servir, qui a réalisé, il faut le signaler aussi, un 6 sur 6 au pied ce soir, alors que en face Dan Bigard on a raté trois quand même des coups de pied en deuxième mi-temps. Belle satisfaction aussi avec la troisième ligne tricolore, Olivon, Crow, Aldrit, on est précieux en défense, offensif, agressif, et puis les centres évidemment Virimi Wakatawa et Gaël Ficou toujours très très présents. La première ligne n'a pas été en reste avec la mêlée galloise qui a été mise en difficulté, notamment en fin de première période. Enfin, pas mal de satisfaction.
Ouais, beaucoup de satisfaction, Eric, on l'a compris. 38 à 21, donc, joli match des Bleus qui ont donc préparé de la plus belle des manières leur rendez-vous le plus important de l'automne. Ce sera la semaine prochaine face à l'Irlande, toujours au Stade de France. Eric, match reporté de la dernière journée du tournoi à destination. Ça s'annonce difficile face aux Irlandais qui ont gagné également aujourd'hui.
Oh là là, ils ont gagné 57, hein, si je ne m'abuse, face aux Italiens. C'est une très très grosse victoire des Irlandais. Ça va être difficile, notamment si les Bleus ne rentrent pas vite dans le match. Ils ont marché un petit peu à réaction, mais enfin, ils ont démontré quand même qu'ils avaient des qualités morales aussi pour revenir, même quand ils étaient en difficulté face aux Gallois. Donc peut-être de quoi espérer remporter une victoire qui ne leur permettrait sans doute pas quand même de gagner le tournoi, parce qu'il faudrait une défaite des Anglais en Italie, et ça, on n'y croit pas.
Oui, ce sera difficile. La faute, on s'en souvient, à cette défaite en Écosse que les Bleus risquent de traîner comme un boulet dans ce tournoi destination. Eh bien, merci Éric Chorin et bonne soirée à vous. On vous retrouvera donc la semaine prochaine dans Mondial Sport pour parler de ce France-Irlande. Et ce France-Irlande donc qui aura lieu la semaine prochaine. Pour ce soir, c'est terminé en tout cas pour Mondial Sport. Merci à Claude Battista qui m'a aidé à préparer cette émission. On revient demain à 21h30, temps universel, avec encore un beau programme, notamment du foot anglais et la finale de la Coupe de la Confédération. Pour l'heure, je vous souhaite une très bonne nuit sur RFI.